Alors, pour ce Radio Barque numéro 1 de la saison, mais pour la 7e saison consécutive, Didier Mouly, on vient de vous entendre en tant que maire de la ville. Vous avez maintenant une nouvelle casquette, une nouvelle responsabilité qui est de taille, c'est celle de président du Grand Narbonne. Alors, je rappelle en quelques mots que vous avez été élu, alors ça c'était à cause du Covid, en plein été, d'habitude ça se passe pas comme ça. 15 juillet, le lendemain du 14, c'est symbolique. Et alors, si je puis dire, le lendemain du 14, vous avez pris la Bastille, véritablement, puisque vous avez été élu avec un score de 57
sur 60. Ce samedi 3 octobre, beaucoup d'humour, Jean-Claude, c'est bien.
Et donc, il faut le constater, que ça plaise ou que ça plaise pas, vous avez été élu avec un raz-de-marée 57 sur 77. Ce qui vous donne, j'imagine, quand même une certaine sérénité dans votre siège aujourd'hui de président.
Oui, mais il ne faut pas l'oublier que cette majorité peut être modifiée par les décisions à venir, et donc il faut tenir compte de l'avis de l'ensemble des communes et non pas que de ceux qui ont apporté leur vote à cette élection.
Oui, ça vous l'avez dit et répété, vous voulez avoir une vision un peu œcuménique des choses.
J'y tiens énormément. L'agglomération pendant 6 ans, de 2014 à 2020, a vécu une exclusion, celle de la ville-centre, que l'ensemble des maires rencontrés précise comme étant pénible à vivre. Et je ne souhaiterais pas que pendant cette mandature à venir, une commune soit mise à l'écart comme cela a été le cas précédemment. Qu'une commune ne veuille pas participer à l'acte commun, à la vie de l'agglomération,
ça, c'est son choix. C'est son affaire. Oui.
Mais qu'elle soit par le simple diktat d'un élu parce qu'il est à la tête de cette agglomération, ça je ne le souhaite pas, je ne le ferai pas et je ne souhaite pas que quelqu'un le pense dans les années à venir.
Et alors, le choix de votre staff, comme on dit familièrement, c'est-à-dire de vos proches collaborateurs qui sont en l'occurrence des vice-présidents, je ne parle pas des administratives, vous avez choisi premier vice-président président, donc Monsieur Heras, maire de Saint-Marcel. Le second, c'est Christian Lapalu, qui est maire de Vintenac. C'est-à-dire à chaque fois des petites communes. Il y a un symbole que vous avez voulu là, hein?
Pas du tout. Il n'y a pas de taille de commune qui permet à un élu d'avoir une meilleure place dans l'exécutif. C'est par les compétences des uns et des autres que les vice-présidences ont été choisies par rapport, si vous regardez les 3 premiers vice-présidents, ce sont 3 premiers vice-présidents qui ont vécu déjà les années passées de l'agglomération, au moins 6 ans pour Guillaume Heras et plus pour les autres, parce que effectivement, ils ont, pendant ces années-là, travaillé le plus possible dans l'intérêt général, même s'il y avait quelques difficultés avec la totalité de l'exécutif vis-à-vis de la présence de toutes les communes dans la ville-centre.
Et alors, un premier vice-président, Guillaume Heras, qui est chargé notamment de l'environnement, est-ce que ça, c'est un symbole ou là encore, c'est les circonstances qui l'ont fait ?
Le symbole, c'est que associer un premier vice-président à un président, c'est déjà un choix. Ma volonté est de travailler avec le plus grand nombre. Et déjà, comme à la ville, où je travaille en étroite collaboration avec le premier adjoint, je souhaite qu'avec le premier vice-président à l'agglomération, cette étroite collaboration soit une réalité et que les décisions soient prises le plus collégialement possible, déjà entre nous deux et éventuellement avec d'autres vice-présidents en fonction des décisions à prendre. Mais c'est un choix personnel. Je pense que les différences d'âge qu'il y a entre nous permettent de aller un peu plus dans la décision qui va plaire au plus grand nombre. L'expérience de la vie de chacun des deux, en fonction de la durée de la vie de chacun des deux, permet d'enrichir la décision et de la faire accepter par le plus grand nombre. C'est ce choix que j'ai souhaité. Après, qu'il soit en charge de l'écologie, c'est pas tout à fait le seul, puisqu'on a surtout un élu qui est en charge de la transversalité avec l'écologie pure, c'est André-Luc Montagnier. Oui. Guillaume Heras, c'est son expérience par rapport aux ressources humaines, puisqu'il a eu pendant 6 ans, son expérience par rapport au traitement des déchets, son expérience par rapport aux relations avec les autres communes, le discours, faire passer un discours, et c'était cette volonté d'avoir à côté de moi une personne qui avait déjà œuvré vis-à-vis de tout le monde avec la même égalité.
Voilà, c'est le bagage qu'il a porté en quelque sorte, si oui. Je comprends bien, qui a décidé de votre choix. Alors parmi les gros morceaux qui se présentent à vous, bien entendu, vous l'avez dit, il y a moult différentes compétences, mais il y a un problème. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, Monsieur le Président, mais vous n'étiez pas encore président peut-être à ce moment-là, mais qui va vous suivre avec une grande difficulté, c'est l'accès routier à ce qui sera très bientôt le pôle de santé sur la zone de Montredon, c'est-à-dire la polyclinique, le Languedoc qui sera muté, des centaines de personnes qui travaillent, des milliers de patients qui viennent. Or, un accès routier qui est vieux et qui est complètement dépassé.
Non seulement c'est un accès routier qui est ancien, mais il est sursaturé. Aujourd'hui, de les premières heures de la matinée jusqu'à tard le soir, et il y a un ralentissement et des bouchons importants. Parce qu'il y a une utilisation de la 113 qui n'est pas propre à la zone d'activité de Montredon, qui est propre au fait que c'est un axe essentiel entre Toulouse et Montpellier. Oui. Et cet axe...
C'est une ancienne route nationale.
C'est une ancienne route nationale. Cet axe n'a pas été travaillé dans un doublement ou dans un élargissement. Il faut que vous sachiez que des convois exceptionnels passent en nombre plus important sur la 113 que sur l'autoroute A61 ou l'autoroute A9, alors qu'ils peuvent l'emprunter en fonction des heures et en fonction des moyens de sécurité. Donc c'est une situation à prendre en compte par rapport à la facilité, la fluidité de la circulation à venir. J'ai été surpris, à partir du 15 juillet, de découvrir qu'il n'y avait, dans les cartons ou dans les tiroirs de l'agglomération, aucun projet d'aménagement de la circulation.
Même pas un schéma ou un début de schéma.
Même pas un schéma. Il n'y a que des paroles prononcées par l'ancien président disant qu'on passerait mieux par Nevian ou qu'on passerait mieux par Cap-de-Plat, mais sans plus. Depuis le 15 juillet, j'ai pris un bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des collectivités qui doivent être autour de la table pour préparer l'avenir. J'ai d'abord rencontré la présidente du conseil départemental, qui a très bien compris la difficulté, Narbonnaise, elle en comprend les contours et le grand problème, puisque c'est au conseil départemental que cette route incombe entre Narbonne et Lézignan, au moins Lézignan, si ce n'est pas plus loin. La deuxième personnalité, c'est le député. J'ai rencontré M. Alain Perea afin de lui exposer cette difficulté. Parce que un député, et j'espère que le prochain rendez-vous sera avec Sébastien Pla, le sénateur, un député, un sénateur, ces élus nationaux peuvent faciliter l'ouverture des portes au sein des ministères. Je vais vous expliquer, si vous me permettez, pourquoi. Et enfin, je viens de rencontrer cette semaine, mercredi après-midi, pendant plus de 2 heures, Madame la préfète et Monsieur le sous-préfet, pour leur porter la même difficulté qui concerne l'agglomération du Grand Narbonne. Deux possibilités, qui ne sont pas à séparer, mais qui peuvent être en complément l'une de l'autre. L'élargissement de la nationale, de l'ex-nationale 113, de la départementale 6113, et la création d'un échangeur autoroutier. Autour de la table, il faut qu'il y ait non seulement l'agglomération, mais éventuellement les villes. Il faut qu'il y ait la SNCF, Voie navigable de France, la voie ferrée est à passer 2 fois, l'Orbieu, l'Aude. Il faut qu'il y ait aussi l'État, puisque il faut qu'il y ait la direction départementale du territoire, il faut qu'il y ait la commission des sites, il faut qu'il y ait la DREAL. On doit appeler la région autour de la table, et il faut que tout ce monde se réunisse une première fois pour travailler dans le même sens.
Mais ça ressemble à des travaux d'Hercule.
C'est des travaux qui ne sont peut-être pas d'Hercule, mais qui sont à prévoir,
qui
à travailler,
sont colossaux, en tout cas,
financièrement importants. Et si l'État n'est pas aux côtés de l'ensemble de ces collectivités, nous ne pourrons pas avancer. Il faut qu'il y ait Vinci aussi qui soit autour de la table. Pourquoi ? Parce que le deuxième point essentiel, l'élargissement de la 113, mais aussi la création d'un échangeur. Seul l'État peut dire à Vinci, créer un échangeur. À hauteur de Bizané, peu importe à l'endroit exactement, puisque c'est à quelques kilomètres de la zone d'activité, mais également c'est l'ouverture vers les citadelles du vestige à travers la route de Fontfroide, en passant par Montoumé, Montjoie, éventuellement Arc, touristiquement c'est aussi important. Ça désenclavera l'ouest de l'agglomération, ça désenclavera l'ouest de la ville de Narbonne, et ça permettra effectivement d'aller assez rapidement à cette zone. Pourquoi assez rapidement? Parce que vous avez parlé de l'ouverture du pôle santé aux alentours du mois de mars-avril 2021, mais vous avez surtout les moyens d'urgence qui doivent se rendre sur ce site. Et quand on parle d'urgence, on parle de rapidité de soins. Il va y avoir des encombrements donc encore plus importants par le biais de véhicules de transport en commun qui vont se rendre à la proximité de ce pôle santé, les patients, les accompagnants, les visiteurs, le personnel, l'encadrement médical. Tout cela va créer une nouvelle apport de circulation, il faut en tenir compte. Ce que je regrette, comme je le disais en début de cette question, c'est que l'agglomération, avec son président, n'ait pas travaillé déjà à cette grande difficulté, à ce grand problème. Aujourd'hui, si on était tous autour de la table, il faudrait au moins 6 ans, si ce n'est pas 8 ans, avant que les travaux ne commencent. C'est là où je suis catastrophé de voir que l'agglomération n'a pas prévu cette problématique et ne l'a pas travaillée.
Bien, et bien c'est là-dessus qu'on va prévoir une deuxième pause. Monsieur Mouly, on voit qu'il restera du pain sur la planche pour vos prochaines visites de président d'agglo. On marque une deuxième pause.